Alors, on va essayer d'entrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous savez que des fois, il y a dans la parole de Dieu des choses qui ne sont pas simples. Pour simplement introduire courtement une toute petite anecdote, j'ai 57 ans, bientôt 58, je pense qu'il y a 30 ans, ça, pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert une Bible, quelqu'un me l'a donnée. Et moi, j'ai un peu la sale habitude, je vais toujours à la fin. Moi, je ne sais pas quel est le verset que j'ai lu pour la première fois de ma vie de la parole de Dieu. Je vais vous le dire. C'est Apocalypse 22, à partir du verset 18 et 19. D'accord ? Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole de ce livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Je dis, ça commence bien, ça m'intéresse quand même. Donc, sincèrement, j'ai été accroché par ce premier verset. Voilà. Ceci aussi pour nous rappeler que on crie haut et fort, des fois même en latin, sola scriptura. Hein, c'est ce qui fait notre unité évangélique autour de l'Évangile. Nous basons notre foi, notre engagement sur l'Écriture, toute l'Écriture et seulement l'Écriture. Je me souviens à l'époque, c'est vrai que ça m'a semblé assez logique, je me tourne vers Matthieu parce que c'est aussi un peu un cartésien scientifique. Je dis, si à partir du moment où on ne met pas des limites à quelque chose, où peut-on arrêter, jusqu'où peut-on aller, dériver, modifier, déjà qu'il y a pas mal de sujets d'interprétation dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, revenons donc à l'Écriture. Alors, il y a une semaine, non deux semaines, je ne sais plus, le dernier message que j'avais partagé avec vous, c'était aussi les petites phrases de Jésus, entre guillemets. Et aujourd'hui, on va en partager une que je vous invite à lire dans Matthieu 22. Voilà, les versets, quelque chose qu'on connaît tous, hein, mais les versets 1 à 14. Je lis rapidement. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya... » Il n'y a pas un peu d'écho, non, ça va ? Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla la ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds, les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Et verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Comment ça marche? Voilà. Alors, ça fait partie d'une série des phrases délicates. Je vous l'avais dit, je me suis pas mal inspiré, lu d'écriture de nos anciens. Et là, donc, la base... C'est Émile Nicole hein, qui a fait un petit peu toutes ces choses-là. Je rappelle d'autres phrases. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin de toi. Alors on peut dire que cette première petite phrase, bon, elle est dure à avaler, mais on a quelque chose, on peut faire, envisager de faire quelque chose, n'est-ce pas, quand on a son œil, voilà, sa main. La dernière phrase que l'on a vue, c'était « On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a ». Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, Matthieu 25. Dans cette dernière phrase, ce qui nous interpelle, le choc n'est pas provoqué par la difficulté de la chose à faire, mais d'une certaine manière, une certaine fatalité, par contre, on ne peut rien ni faire, c'est comme ça, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est d'une certaine manière, je regarde ceux qui passent des concours, c'est comme un certain numerus clausus, hein. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors on va essayer de regarder un petit peu, non pas de faire une étude doctrinale, mais quelque chose de pratique quant à cette phrase. On va regarder une vérité qui heurte notre sensibilité. Quelles pourraient être nos tentations et nos réactions face à cette vérité proclamée? On va aussi regarder quelques phrases un peu parallèles, semblables. On va évoquer rapidement aussi de mauvaises réactions que nous pourrions avoir vis-à-vis de ça. Et puis nous allons nous centrer sur un mot, à mon avis, qui est très très important dans ce verset, qui est le mot « appel ». Et puis comment vivre cet appel dans notre vie de chrétien de tous les jours, comment avancer avec cette petite phrase de Jésus, je le rappelle. Cette phrase, d'une manière très nette, nous met en présence de la douloureuse réalité d'un mot qu'on n'ose plus prononcer, qui s'appelle la perdition. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est l'émotion, hein, je vous assure. Dans Matthieu 25, dans la parabole des talents, la conclusion, on notera donc après, on notera celui qui n'a rien, le sens est souligné par le verset qui suit. Le serviteur inutile, jeté dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le même sort pour l'invité qui n'était pas revêtu de l'habit de noces. Liez-lui les pieds, vous connaissez, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Cet enseignement de Jésus, cette vérité, s'accommode mal avec l'air du temps, où chacun a sa vérité. On en entend, je respecte ce que tu crois, tu peux croire. Même pour nous, nous nous situons mal par rapport à ça. Elle heurte fort notre sensibilité. Tant que quelquefois elle nous paraît peut-être impensable. On ne prononce jamais le mot de perdition. On a même trouvé un mot, je trouve, dans nos milieux. On dit qu'est-ce que c'est que de ne pas être sauvé. On dit sauver, c'est vivre dans la présence de Dieu, et être perdu, c'est être éloigné de la présence de Dieu. Mais pour quelqu'un pour qui la notion de Dieu est un peu, il y a quelque chose d'éloigné, ce n'est pas marquant. Cette vérité, elle heurte très fort notre sensibilité, ma sensibilité, tant elle peut humainement nous paraître impensable, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ne faut-il pas être borné, fanatique, pour penser ainsi que des gens qui partagent pas nos convictions iront retirer en enfer, humainement, aujourd'hui, au XXIe siècle? Alors, quelles sont nos tentations? Quelles pourraient être les tentations en réaction face à cette vérité, la seule vérité. Face à cette difficulté quasi intellectuellement insurmontable, humainement, il n'est pas surprenant, et dans beaucoup de milieux un peu plus larges que les nôtres, que beaucoup de chrétiens, je mets chrétiens entre parenthèses, développent une doctrine de salut universelle, ou du style, moi quand j'étais, comment il s'appelle, celui qui chantait ça, quand on était gamin, nous irons tous au Nazareth. Merci. Le monde est bercé de ça. Hein. Donc beaucoup de chrétiens, entre parenthèses, développent une doctrine de salut universel qui donne une certaine satisfaction, qui dit ben, on est quand même généreux, on offre un salut universel. Nous, chrétiens évangéliques, liés par la parole, bien clair dans notre Seigneur, je rappelle que c'est le Seigneur qui a prononcé ces versets, hein. il en a parlé lui-même. Bien sûr, nous ne pouvons nous engager sur cette voie. Il nous reste quand même d'autres moyens pour éviter ce problème, comme celui qui consiste à ne pas parler de cette perdition ultime, ou d'en parler sans être ému, ou d'en parler d'une manière un peu diluée, comme je l'ai dit tout à l'heure. On parle beaucoup du salut, mais on parle peu de la perdition. Pourtant, nous sommes encouragés par nous laisser atteindre par cette phrase de notre Sauveur prononcée « Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus ». D'autres phrases un petit peu semblables. Oh, je me suis trompé. Dans l'ordre, tant pis. D'autres phrases semblables. Qu'est-ce qu'on peut noter dans cette phrase? Qu'est-ce qui nous achoppe? Quels sont les deux mots qui nous... Le, je l'ai entendu, beaucoup et peu. Donc, une certaine disproportion. Cette phrase n'apparaît qu'une seule fois dans les évangiles. La disproportion entre le nombre des sauvés et celui des perdus est quand même dans d'autres versets mentionnés ailleurs. Le sermon sur la montagne, entrée par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Ces deux phrases hein, de Matthieu 7 et de Matthieu 22 sont presque jumelles. Dans l'évangile de Luc aussi, au chapitre 13, des versets 23 et 24, une remarque similaire sur la porte étroite, sur une question posée. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» À cette question, on peut noter que Jésus ne répond pas pour tenter de rassurer ses auditeurs. « Vous ne faites pas trop de soucis. » Il y en aura peut-être sûrement plus que vous pensez. Ni même il nous laisse planer un doute. Qui sait, peut-être que le nombre des élus sera un peu plus grand que... Peut-être y aura-t-il un plan B. Qui dans cette salle n'a pas eu un jour cette réflexion? Sincèrement. Sincèrement. Devant ce verset. Sa réponse confirme qu'en fait, le nombre de ceux qui seront sauvés est restreint par rapport à ceux qui seront perdus. Et Jésus insiste encore, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. » Même si globalement, sur le plan de l'histoire, le nombre des élus sera sûrement un groupe important, Apocalypse 7, 9, des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation, de tout peuple, Apocalypse 5, 10 et 7, 9, une grande foule que nul ne peut compter, par rapport au nombre des humains, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, mauvaise réaction par rapport à ça. Il arrive cette fois-ci parmi nos milieux que malheureusement cette phrase soit aussi mal utilisée et qu'elle serve à nous conforter dans une sorte de forme de dire, ma foi, on se met dans une bulle, on est chez nous, on est sauvés, alléluia, on n'est pas nombreux ce matin à Roussonnera, on fait partie du... Hop, on reste chez nous, on est bien chauffé, tranquille, merci Seigneur, alléluia, on est sauvés. Je ne pense pas que ce soit une bonne réaction. Je ne pense pas que le Seigneur parle du tout de cet esprit-là quand il parle des élus. Observons par exemple la manière dont il répond à la question « Il n'y a que peu de gens qui soient sauvés ». La question est générale, on va dire, la personne qui pose cette question. Et comment répond ? Je dirais, c'est comme si c'est un journaliste. Le journaliste, il vient. On appelle ça le quatrième pouvoir, c'est ça, le journaliste. C'est-à-dire, c'est celui qui se met un petit peu en marge de tout et qui vient aiguillonner, qui vient. Il n'est pas du tout concerné, mais il pose la question. Celui donc qui pose la question se place donc comme un observateur extérieur. Et la réponse de Jésus est immédiatement personnel, Luc 13, efforce-toi d'entrer, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On peut noter que c'est pas marqué suivez le panneau, prenez la première flèche à droite et c'est bon, vous y êtes. Il y a le mot efforcez-vous. À l'issue de cette réponse, le journaliste n'est plus dans la situation d'estimer la proportion entre perdu et sauvé. Il se retrouve lui-même obligé de répondre à la question. Il y a là. Il n'y a pas trois positions. La position du journaliste, elle n'existe pas par rapport à l'Éternel. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Jésus va donc plus loin, puisqu'il place ses auditeurs dans la situation même de ceux qui sont définitivement perdus, pour leur faire comprendre à quel point la chose est grave et les concerne directement. Luc 13, 25 à 28, « Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte, et que restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Et alors, vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues, et il vous répondra en disant, « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. » Heureusement, c'est pas moi qui dis ça. Alors, je vais dire merci, voilà. Un appel universel. Il y a beaucoup d'appelés, le mot appelé. Ceci nous indique, on va revenir à quelque chose d'un peu plus encourageant, n'est-ce pas ? Une vérité merveilleusement illustrée par la parabole, l'appel, l'invitation s'adresse à tous, absolument tous, non seulement aux premiers invités, mais à tous les autres, à tous ceux qu'on va chercher au carrefour, dans les rues, le long des chemins. Le mot employé deux fois en rapport avec cette invitation. Invitez tous ceux que vous trouverez. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Je pense que invitez tous ceux que vous trouverez. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Au moment de l'organisation de la fête de Noël, en lisant ces versets, j'ai trouvé dans ces versets un écho, la sincère motivation profonde dans laquelle nous sommes aujourd'hui invité, depuis de longues années, pas aujourd'hui, mais à lancer cet appel autour de nous. Notre mission est de lancer l'appel, le reste est de la responsabilité de l'Éternel. Le caractère inconditionnel de l'invitation est encore souligné par cette précision, rappelez-vous, on l'a lu, méchant et bon, on appelle tout le monde. Il y a un autre écho dans ces mots de méchant et bon qu'on trouve dans la parole, hein, de même que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. De même, l'invitation doit être adressée à tous. Tous sont appelés bons et méchants. C'est ainsi que doit être compris le « beaucoup sont appelés ». Tous doivent attendre l'appel, un « tous » qui veut aussi bien dire « n'importe qui » et que tous sans exception. Un écho avec la mission que nous a donnée Yves, aller jusqu'au bout de la terre pour annoncer pour que beaucoup soient appelés. Comme Jésus en donne la mission à ses disciples avant de les quitter, aller par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. La mission qui nous est confiée comme ambassadeur de Jésus, c'est ce que nous sommes, n'exclut personne. Il y a de notre part aucune sélection à opérer pour déterminer qui seraient ceux qui seraient dignes ou indignes de cette invitation. Parce que c'est une invitation de grâce, elle s'adresse à tous, même à ceux que nous aurions, que j'aurais tendance à juger comme étant pas franchement digne de la recevoir, cette bonne nouvelle. Marc 2, 17, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Avant de nous inquiéter de ce que peu soient élus, réjouissons-nous de ce que beaucoup soient appelés. Tirons-en les conséquences, c'est-à-dire relayons, soyons des bras de relais pour cet appel. C'est tout ce qu'on nous demande. Ne cherchons pas à prendre la place du Seigneur qui a lui à l'entière responsabilité de ses élus. Alors vivre cet appel au quotidien, cette générosité de notre Dieu qui appelle tous les hommes à lui, nous devons la vivre, je dois la vivre intensément. Elle garde toujours le pouvoir de nous surprendre, de nous confondre. Je prie le Seigneur que un jour il vous fasse la grâce de vivre ces instants bénis où un homme ou une femme donne son cœur au Seigneur dans la simplicité. C'est le plus beau cadeau, le plus bel encouragement que l'Éternel puisse vous donner de vivre, bien sûr, après celui de l'avoir rencontré. Ce que nous sommes tentés de faire, ce qu'on a parlé précédemment, consciemment ou inconsciemment, un tri, de nous replier sur nous-mêmes, de garder pour nous l'invitation, parce qu'on se sent faussement pas semblable ou indigne d'en parler, parce qu'il me semble hyper difficile de le transmettre. Mon cœur aimerait bien généreusement que le nombre des élus augmente. Alors que peut-être ma négligence, mon égoïsme diminue le nombre des appelés. comme nous sommes généreux lorsque la générosité ne nous coûte pas grand-chose, ne me coûte pas grand-chose. En parole, on serait prêt à donner le ciel à tous les hommes. Moi le premier. Mais quand il faut forcer, quand il faut monter au front, quand il s'agit d'inviter, quand il s'agit de parler, quand il s'agit d'accueillir, moins facile. Avons-nous bien entendu, ai-je bien entendu l'ordre du roi, aller au carrefour et inviter aux noces tous ceux que vous trouverez. Alors, reste malgré tout, pardonnez-moi si ce message il est un peu difficile ce matin, mais je suis chagriné quand même par tout ça. Reste malgré tout que cette générosité à laquelle nous sommes incités, beaucoup sont appelés, peu sont élus, quoi. C'est pas très encourageant. C'est pas humainement pas très encourageant. C'est ça qui nous chagrine. Et je dirais que ça serait pas normal que ça nous chagrine pas. Revenons à notre maître. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que ses habitants n'avaient pas saisi l'occasion qui leur était offerte. Paul disait qu'il avait dans le cœur une grande tristesse, un chagrin continuel à cause de ses frères israélites qui, dans leur majorité, rejetaient le message du salut en Jésus-Christ. Pourtant, est-ce que cette grande tristesse a amené Paul à réviser sa théologie quant au salut ? Au contraire, elle le poussait à annoncer l'évangile à ses frères. On peut noter, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, chaque fois qu'il le pouvait, bien que chaque fois rejeté, poursuivi, maltraité par les Juifs à cause de son message, chaque fois qu'il arrivait dans une nouvelle ville, il commençait par se rendre d'abord à la synagogue, pour annoncer et pour y parler de Jésus-Christ. Il n'est pas en notre pouvoir de changer ce que Dieu a révélé dans sa parole. Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut s'accrocher. Des choses nous sont révélées, peut-être pas tout. Laissons la prescience de Dieu dans toute sa souveraineté, mais n'allons pas rajouter quelque chose à ce qui nous est révélé. Il n'est pas en notre pouvoir de changer ce que Dieu nous a révélé. Par contre, il est de notre pouvoir de prier, d'agir, d'appeler. Ce n'est pas à nous de prendre des masses, des marteaux pour élargir la porte étroite. Ou d'adoucir, de faire une autoroute du chemin étroit décrit dans la parole de Dieu. Jésus nous apprend précisément que la porte large et le chemin large, l'autoroute, c'est le boulevard pour la perdition. Alors, que faire ? La seule manière de faire face à cette réalité troublante, je l'ai vu, mon cœur est troublé, c'est simplement de collaborer à l'œuvre divine du salut, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile. Je ne l'ai pas connu, mais on a entendu des témoignages notamment au Maroc, par certaines personnes qui y ont vécu, des missionnaires qui ont passé des années, qui ont semé, qui n'ont pas vu lever la moindre graine. Une hostilité terrible. Ils ont continué, parce que ces méchants, en face d'eux, étaient dignes d'être appelés, eux aussi. Et maintenant, dans ces pays-là, regardez ce qui se passe en Algérie, regardez. Il faut essayer de prendre un peu de distance par rapport à tout ça, s'inscrire comme enfant de Dieu dans le plan que Dieu veut pour l'humanité, pour nous, appelés, appelons. Donc la seule manière de faire face à cette réalité troublante, c'est de collaborer à l'œuvre divine du salut, c'est-à-dire d'en parler, annoncer autour de nous. C'est pas simple, hein. Je vous le dis sincèrement, je n'aime pas parler de choses personnelles ni quoi que ce soit, mais j'étais le premier touché dans ma famille. Et ô combien c'est dur de parler de l'Évangile à son père, à sa mère, à son frère. C'est un combat à ses amis proches, à ses cousins. On a tellement peur que ça nous pète dans les doigts, qu'on casse quelque chose. C'est la réalité. C'est un combat auquel nous devons faire face, nous devons avancer. Il nous est demandé de renoncer à notre confort intellectuel, de passer par-dessus nos sensibilités, de ma sensibilité. Nous ne devons pas renoncer à appeler quelques-uns. Je termine par l'exemple du Christ, un petit détail, l'Esprit Saint fait que notre frère en a parlé un petit peu. Les petites phrases de Jésus sont inséparables de son auteur, de Jésus. À lui la responsabilité. Notre responsabilité d'appeler. Il a l'entière responsabilité de ce qu'il écrit. Il est Dieu, Fils de Dieu. On doit la vivre, essayer de la vivre comme Christ l'a vécu. Alors, Jésus, assis près d'un puits, quelque part en Samarie, il est en voyage, il est fatigué, ça me rappelle quelqu'un qui est en voyage, qui est fatigué, qui se déplace beaucoup, il est tranquille, des moments de solitude sympas, enfin, ouf, tranquille. Un moment de solitude peut-être bienfaisante, ses disciples sont partis au village pour faire les courses. Trois raisons pour regarder celle qui vient du puits comme ça. Le téléphone qui sonne, tac, tac, pas au bon moment. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette femme aussi fait partie de ceux que Dieu appelle. Il faut qu'elle sache, et Jésus va s'intéresser à elle. S'intéresser à elle pour trouver un moyen de l'aborder, de lui parler d'une manière qu'elle le souhaite, dont elle l'entend. Vous me direz, pour Jésus, c'était facile, il lit dans les cœurs. Mais je pense que nous devons aussi avoir ce souci. Il ne s'agit pas de marteler, on le sait tous, hein, de proclamer. Vous vous rappelez quand, je me rappelle, il y avait des vieux films quand on était gamin avec des westerns américains, on voyait des prêcheurs là, ils disaient, ouais, si tu vas en enfer, hein, des choses assez agressives. On voit aussi que Jésus va s'adresser ici, à la Samaritaine d'une manière bien particulière, spécifique. C'est vrai, mais Jésus, même fatigué du voyage, va trouver un moyen pour l'aborder. Il va trouver pour elle, tout exprès, une manière de dire, une manière de transmettre l'appel, tout en lui rappelant son problème de vie, bien sûr, son indignité. Des choses claires, mais adaptées. Dernière phrase. Celui qui nous dit des paroles qui font mal est aussi celui dont l'exemple est assez lumineux pour nous donner la force de vivre à sa suite. De donner à cette douloureuse question la réponse qui, plus que tout autre, est de notre ressort, de notre action, amour et service. Et l'Église aujourd'hui, c'est la même qu'il y a 2000 ans, sa mission, sa fonction n'a pas changé. Nous sommes l'Église dans le monde du XXIe siècle. Comme l'a dit François, on n'est pas une Église, essayons de ne pas être une Église mondaine, mais d'être une Église toujours centrée, sur appeler. Nous sommes appelés à être appelés parce que un jour, j'ai été appelé, tu as été appelé, j'ai été appelé par quelqu'un. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, que ces versets, que ces paroles que tu as mis sur nos cœurs pénètrent, Seigneur, tu, comme tes serviteurs dans la parole de Dieu, ils étaient eux aussi tristes de voir, comme Paul, leurs frères et sœurs, tellement réfractaires, Seigneur. Mais pourtant, ça n'a pas coupé, arrêté le zèle. Seigneur, abritons-nous derrière ta sainteté, derrière le fait que tu sois le roi des rois, que certaines choses nous sont révélées dans ta parole, et Seigneur, restons à ce qui nous est révélé. Seigneur, ne nous abandonnons pas à des pseudo-idées, entre guillemets, qui nous inviteraient à nous asseoir dans un confort en disant « Oh, mais il a sûrement prévu quelque chose ». Seigneur, rappelle-nous que nous avons cette mission d'appeler autour de nous et toi, tu as la mission de sauver. Amen, Seigneur.